Laudetur Jesus Christus.
Première rencontre aujourd'hui entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Un sommet à Genève qui s'annonce des plus délicats au regard des sujets de discorde. Ukraine, Bélarus, emprisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny ou encore cyberattaque. Nous nous rendrons à Moscou juste après les titres. Les dirigeants de la Serbie et du Kosovo ont repris leur pourparlers hier à Bruxelles, mais aucune avancée n'a été enregistrée au terme de cette rencontre à l'initiative de l'Union européenne. De nouvelles discussions entre Belgrade et Pristina sont prévues fin juillet. Au sommaire également, la passation de pouvoir en Centrafrique. Le nouveau chef du gouvernement, Henri-Marie Dondra, a dit vouloir relancer l'économie avec comme partenaire stratégique la France. Et dans notre dossier, nous reviendrons sur les opérations menées par la Turquie dans le nord de l'Irak. Dernier épisode en date, l'élimination la semaine dernière par les services secrets turcs d'un haut responsable du Parti des travailleurs du Kurdistan près d'un camp de réfugiés. Il reflète une situation explosive dans la région. Analyse en deuxième partie de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Hélène Destombes.
Bonjour, c'est donc aujourd'hui à Genève que doit avoir lieu la première rencontre entre les présidents russes et américains. Un sommet très attendu qui débutera à la mi-journée dans un contexte de crispation. Les relations entre Moscou et Washington sont au plus bas. Alors que peut-on attendre de ce face-à-face entre Vladimir Poutine et Joe Biden? Peu de choses d'après le Kremlin, si ce n'est une stabilité dans la relation stratégique que la Russie entretient avec les États-Unis. Les précisions de Jean-Didier Revoin.
Si les attentes sont limitées, cela ne veut pas dire pour autant que cette rencontre n'est pas importante. Elle doit permettre à Vladimir Poutine de signifier clairement et sans équivoque à Joe Biden quelles sont les lignes rouges du Kremlin. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et l'installation de bases américaines sur son territoire, ou encore toute tentative d'éloigner Minsk de Moscou, sont les plus évidentes. Washington ne manquera pas de faire de même, et dès lors, il reviendra aux deux hommes d'établir la liste des dossiers sur lesquels ils peuvent collaborer. Pour Moscou, il s'agit principalement du nucléaire iranien, de la lutte contre le réchauffement climatique et le Covid et du retour à leur poste des deux ambassadeurs. De manière plus large, la Russie capitalise sur les signaux envoyés par Washington pour se mettre d'accord sur le format de futures négociations sur le désarmement. Certes, la question des droits de l'homme sera abordée, mais personne ne s'attend à ce que Moscou fasse des concessions unilatérales. Si personne à Moscou n'anticipe un affaiblissement de la confrontation sur certains dossiers, cette rencontre constitue néanmoins une tentative d'éviter qu'à l'avenir, un dérapage ne débouche sur une situation incontrôlable. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Hier, c'est avec les Européens que s'est entretenu Joe Biden. Lors d'un sommet à Bruxelles, l'Union européenne et les États-Unis se sont entendus pour prolonger de 5 ans la trêve décidée en mars dernier entre Airbus et Boeing afin de régler ce vieux conflit sur les subventions illégales aux deux avionneurs. Bruxelles accueillait également hier une rencontre entre les dirigeants de Serbie et du Kosovo. Des discussions entre les deux voisins des Balkans qui ont repris sous l'égide de l'UE. L'objectif est de mettre un terme à un conflit territorial épineux, mais les positions des deux capitales semblent très éloignées. Laurent Rouy.
L'Union européenne organisait une énième tentative de relance des négociations de 2011 entre Pristina et Belgrade sur le statut du Kosovo. Apparemment, la rencontre a tourné au dialogue de sourds avec un premier ministre kosovar, Albin Kurti, qui aurait insisté uniquement sur la reconnaissance par Belgrade de l'indépendance de son ancienne province, et un président serbe, Aleksandar Vučić, qui souhaitait faire avancer le dossier des personnes disparues. Dans un cas comme dans l'autre, l'auteur de la proposition s'est heurté à une fin de non-recevoir de la part de l'autre camp. En bref, il ne s'est rien, mais absolument rien passé. Vučić accuse Kurti de dénoncer les précédents accords passés. Il est vrai que Albin Kurti s'est toujours opposé à la création d'une communauté de communes serbes jamais mise en place par ses prédécesseurs. Kurti affirme que Vučić n'a proposé que des vieilles idées. Il est vrai que les Serbes insistent depuis plusieurs années sur la mise en place des accords signés qui ne se matérialisent pas. Pour l'Européen Miroslav Lajčák, la rencontre n'était pas facile. Les partis en présence devraient pourtant se retrouver fin juillet pour poursuivre les discussions. Belgrade, Laurent Rouy, Radio Vatican.
L'aviation israélienne a ciblé ce matin des positions du Hamas dans la bande de Gaza après des lancers de ballons incendiaires vers son territoire. Des frappes israéliennes quelques jours après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement mené par l'ancien ministre de la Défense Naftali Bennett. Ce sont les premiers incidents importants entre Israël et Gaza depuis le cessez-le-feu le 21 mai dernier qui a mis un terme à 11 jours de conflit ayant fait 260 morts côté palestinien et 13 décès en Israël. Au Pérou, le candidat de la gauche, Pedro Castillo, en tête de la présidentielle avec 50,12% des voix, rejette les appels à annuler le scrutin pour fraude présumée lancée par des soutiens de son adversaire de droite, Keiko Fujimori. Il s'exprimait à l'issue du dépouillement, déclarant attendre patiemment le résultat du scrutin. Keiko Fujimori s'est quant à elle dite confiante de remporter l'élection. Passation de pouvoir hier en Centrafrique entre l'ancien Premier ministre Firmin Grébada et le nouveau chef du gouvernement Henri-Marie Dondra. Ce dernier a fixé comme priorité la relance de l'économie et le retour de la sécurité dans le pays. À Bangui, Vianney Ngasso.
En prenant officiellement sa nouvelle fonction, Henri-Marie Dondra, le nouveau Premier ministre, entend faire de la sécurité et la relance de l'économie sans faire de lance.
On a déjà un acquis sécuritaire qui est là. Il va falloir faire de notre mieux pour mettre en place un mécanisme qui nous permet de conserver ces acquis. Je pense qu'il y aura la relance des échanges avec les groupes armés dans le cadre de l'accord de paix que nous avons signé avec ces groupes armés. Cela est essentiel. Dans le cadre de l'économie, il faudrait justement penser à diversifier nos sources de revenus par l'élargissement de l'assiette fiscale. Ça, c'est quelque chose qui est très important.
Pour ici son pari, le chef du gouvernement centrafricain appelle tous les partenaires à contribution pour sortir le pays du marasme économique.
Il y a un travail d'échange qu'il va falloir relancer. Je pense à l'Union européenne, je pense à la Banque mondiale, je pense au Fonds monétaire international. Et bien évidemment, notre partenaire stratégique, qui est la France.
Le Premier ministre Henri-Marie Dondra, économiste de formation et cadre des institutions bancaires internationales, porte désormais la lourde responsabilité de conduire le gouvernement centrafricain dans un contexte sécuritaire et économique fragile. Bangui, Vianney Ngasso pour Radio Vatican.
La famine qui ravage la région éthiopienne du Tigré, théâtre d'un conflit, pourrait concerner à court terme d'autres provinces du pays. C'est l'alerte lancée hier par un responsable de l'ONU lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité. Des propos catégoriquement rejetés par Addis Abeba. 350 000 personnes au Tigré souffrent déjà de la faim et la famine menace 2 millions de personnes supplémentaires dans les régions du Tigré, de l'Afar et de l'Amara, affirme le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires qui annonce de premiers décès. Dimanche dernier, au terme de la prière de l'Angélus, le pape François avait exprimé sa proximité aux populations civiles du Tigré, dénonçant la famine qui touche en particulier des enfants. Il avait appelé à prier pour que cessent les violences. Retour à présent sur un cri d'alarme poussé par des scientifiques face au réchauffement climatique. Le phénomène aurait déjà franchi un point de bascule qui le rendrait irréversible. Tout part d'une grande expédition internationale menée en Arctique pendant un an. Les premières conclusions laissent entrevoir des changements à grande échelle et pas seulement dans un avenir lointain. Les explications d'Adélaïde Patrignani.
Le changement climatique est comme un champ de mines et nous avons peut-être déjà marché sur une première mine déclenchant le début de l'explosion. C'est l'image utilisée hier par l'allemand Markus Rex, le responsable de cette expédition qui est la plus grande jamais menée au pôle Nord. La principale préoccupation des scientifiques est le recul de la banquise, considérée comme l'épicentre du réchauffement global. Elle fond à une vitesse dramatique et la liquéfaction du printemps 2020 a été particulièrement rapide. Si un point de basculement a été franchi, alors les effets vont arriver en cascade. Disparition de la calotte glaciaire du Groenland, dégel progressif du permafrost arctique, extinction des ours polaires. La grande barrière de corail au large de l'Australie est elle aussi en danger, ont alerté les scientifiques. Les milliers d'échantillons et de données recueillies vont continuer d'être analysés. En attendant, les prochaines années seront cruciales, a expliqué Markus Rex. Une protection cohérente du climat pourrait sauver la banquise. Autrement, nous serons la dernière génération à voir l'Arctique avec une banquise l'été.
Adélaïde Patrignani. La situation alimentaire est tendue en Corée du Nord, c'est ce qu'a admis le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le secteur agricole n'a pu atteindre son objectif de production de céréales en raison des dégâts causés l'an dernier par les typhons, a-t-il déclaré. Le pays fait face depuis plusieurs années à de graves pénuries alimentaires. Les membres du PKK, le parti indépendantiste kurde, toujours dans la ligne de mire de la Turquie. La semaine dernière, les services secrets turcs ont éliminé un haut responsable du parti des travailleurs du Kurdistan, non loin d'un camp de réfugiés dans le nord de l'Irak. Ankara a multiplié ces derniers mois les frappes de drones dans cette région. Bagdad dénonce régulièrement une violation de sa souveraineté territoriale, mais derrière les mots, la réalité est plus complexe. L'Irak et la Turquie sont des alliés objectifs contre les velléités des indépendantistes kurdes qui rêvent toujours de bâtir leur État à cheval sur plusieurs pays. Aux confins des territoires irakiens, turcs, syriens et iraniens se joue un rapport de force entre puissances rivales de la région. Pour décrypter cette mosaïque explosive, nous donnons la parole ce matin à Adel Bakawan, directeur du Centre de sociologie de l'Irak à l'Université irakienne de Sorane.
Aujourd'hui, géopolitiquement parlant, vous avez deux axes qui se séparent, qui se distancient. Vous avez l'axe de Bagdad, Erbil et Ankara. C'est un pôle géopolitique face à un autre pôle qui est constitué de l'Iran, le PKK et les organisations miliciennes de Hashd al-Shaabi, c'est-à-dire la mobilisation populaire. Donc, trois acteurs face aux trois acteurs. Ce qui se passe actuellement sur le sol irakien, c'est une coordination minutieuse, permanente, des actions stratégiques de ces deux pôles-là, l'un contre l'autre.
Et quelle est la véritable influence du PKK à la frontière turco-irakienne et auprès de qui le PKK tire ses ressources?
Une très très bonne question. Une bonne partie des militants du PKK sur le sol irakien sont financés directement par le budget consacré à la mobilisation populaire. Et on sait très bien que ce budget annuel, par exemple cette année-là, le budget des milices chiites de Hashd al-Shaabi dépasse le budget de 5 ministères irakiens réunis. Et donc, la part de l'Iran, c'est quoi? C'est que grâce à ou à cause, ça dépend comment on voit les choses, à l'intervention iranienne, les combattants du PKK sont financés, leur salaire financé par Al-Hashd al-Shaabi, numéro 1. Numéro 2, les armes utilisées dans ces combats, une bonne partie de ces armes-là vient de la République islamique de l'Iran. Numéro 3, la République islamique de l'Iran facilite l'installation du PKK dans l'ensemble du territoire contrôlé par les milices considérées comme pro-iraniennes. Et de ce fait, bien évidemment, les liens stratégiques se tissent entre les deux acteurs, à savoir le PKK et la République islamique de l'Iran.
Quel est l'intérêt stratégique de l'Iran en jouant avec ces différents acteurs régionaux?
Avoir un accès, un acteur qui facilite son accès à la Syrie de Bachar al-Assad et par la Syrie au Liban. Il faut pas oublier que le PKK a un contrôle très important sur la ceinture frontalière entre l'Irak et la Syrie. De l'autre côté, vous avez un large territoire qui est reconnu comme Rojava, n'est-ce pas? C'est-à-dire le Kurdistan syrien. Et on sait très bien que le Kurdistan syrien est le territoire par excellence d'influence du PKK. C'est là où le PKK est en train d'élaborer, forger, installer, construire son modèle idéologique d'une entité politique. Et l'Iran a besoin ce passage-là pour arriver à Damas et ensuite à Beyrouth.
Est-ce que les rapports de force dans cette région à cheval sur trois pays, l'Irak, la Syrie, la Turquie, sont susceptibles d'évoluer ou au contraire on est plutôt dans une forme de stabilité, voire de stagnation?
À moyen terme, il n'y aura probablement pas des changements radicaux, des grandes transformations, des orientations à l'échelle régionale. À ce jour-là, malheureusement ou heureusement, ça dépend encore une fois comment on voit les choses, les pays du système international, notamment les puissances du système international qui peuvent trancher la sortie de ces crises-là, n'ont pas des projets concrets et des orientations concrètes. C'est pourquoi il est peu probable qu'on sorte de la situation actuelle à court terme, voire à moyen terme.
Voilà, c'était l'analyse d'Adel Bakawan, directeur du Centre de sociologie de l'Irak à l'université irakienne de Soran. Interrogé par Olivier Bonnel, il était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous à 13h. D'ici là, très belle matinée. Au revoir.